Témoin pour aujourd'hui. Témoin pour aujourd'hui. Témoin pour aujourd'hui, une émission présentée par Philippe Cochineau.
Bonjour à toutes et à tous, c'est heureux de vous retrouver. Vous êtes bien sur RCF. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui n'est sans doute pas très habituelle sur nos antennes, puisque nous allons découvrir un petit peu plus en profondeur la thématique de l'hypnose. Et avec nous, pour en parler, Marie-Pierre Preud'homme, bonjour.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Alors, vous êtes psychothérapeute, oui. Formée en systémique et dans d'autres fonctions également, mais aussi en hypnose. Alors, à part, on voit souvent l'hypnose, on s'imagine des spectacles, etc., où les gens perdent leur volonté, etc. C'est quoi exactement l'hypnose, en fait?
Alors, l'hypnose, c'est plusieurs choses, Philippe. On pourrait remettre ça à une langue ou à un ordinateur. À une langue dans le sens où une langue va servir à dire des choses. L'hypnose, c'est en fait la langue pour s'adresser à l'inconscient. Métaphore aussi avec l'ordinateur. L'ordinateur sert à tout, à des bonnes choses comme à de moins bonnes choses, à gagner du temps, à perdre du temps. L'état d'hypnose, en fait d'auto-hypnose, nous permet de générer différents comportements et différentes sensations.
Alors, vous avez apporté un petit changement. Donc, on parle d'hypnose, d'auto-hypnose. C'est la même chose ou sont des concepts différents?
En fait, on pourrait, je pense, toujours parler d'auto-hypnose dans la mesure où c'est un état qui est auto-généré par la personne. Donc, c'est un état qu'on génère. C'est un état qu'on connaît, qui est tout à fait fréquent. On connaît cet état avant d'aller dormir. Juste, vous voyez, quand vous êtes prêt à vous endormir et que vous avez envie de bouger, mais vous n'avez pas trop le courage de bouger, qu'il vient des choses dans la tête, qu'on se sent créatif ou pas créatif. Tout ça, ce sont des états de type hypnotique.
Les rêves éveillés, par exemple. Un rêve éveillé, c'est considéré comme un état hypnotique ou non?
Ça fait partie de la même famille. Également, si vous faites des longs trajets en voiture et que l'esprit décroche et qu'on a la sensation, mais tiens, je ne me rappelle pas d'être passé par tel ou tel endroit, ou grosse panique, fin limitation de vitesse. Je n'ai pas vu le début de la limitation de vitesse. Le temps qui paraît un petit peu plus court ou plus long, tout ça, ce sont des phénomènes de type hypnotique. Donc, nous connaissons tout ça. Ça fait vraiment partie de notre façon de fonctionner.
Alors, je voudrais reprendre c'est un peu une caricature qu'un humoriste américain avait dit. Il avait dit, le cerveau d'une femme, c'est une interconnexion de fils qui n'arrête jamais de fonctionner, tandis que le cerveau d'un homme, c'est composé d'un ensemble de petites boîtes, et on ne peut ouvrir qu'une boîte à la fois. Et il disait, et vous, mesdames, voyez-vous, il y a une boîte que vous ne comprenez pas, c'est la boîte du rien. Quand vous demandez à un homme, tu penses à quoi? Il vous dit, pense à rien. Vraiment, il ne pense à rien. Et parfois, dans les couples, allez, dis-moi vraiment à quoi tu penses. Et l'homme dit, mais non, je ne pense à rien. Pour un homme, très souvent, ne penser à rien, c'est normal. Est-ce que ça, c'est déjà aussi une forme d'état hypnotique où on peut être là, en train de boire un verre avec un ami, à une terrasse de café, et puis on est là, on ne pense à rien, et l'autre ne pense à rien non plus, et c'est normal. Est-ce que c'est déjà cet ordre-là ou pas?
Ça fait un peu partie de ça, où quand on voit des enfants qui sont là sans vraiment être là, où on voit que l'esprit décroche. En fait, oui, ils sont en train de rêvasser, ils sont un petit peu entre deux. Et donc ça fait partie de cette famille des états hypnotiques qui permet le lâcher prise, qui permet la créativité.
Alors, si je viens chez vous dans votre cabinet, puisque vous êtes psychothérapeute, vous pratiquez l'hypnose comme moyen, comme thérapie?
Comme outil de thérapie. Donc, comme je disais, c'est une langue. Ça veut dire que apprendre simplement la langue, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut apprendre des techniques qui vont faire qu'on va utiliser à bon escient cette langue-là. C'est un peu comme si on disait, je connais anglais, je peux faire du business partout dans le monde. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir connaître les règles de commerce, de douane.
Justement, comment est-ce qu'on entre dans cet état? Comment est-ce que vous arrivez à ce que votre patient entre dans cet état hypnotique?
Alors, il y a une invitation à la concentration. Il y a plusieurs méthodes, en fait. Il y a une invitation à la concentration, une saturation au niveau des sens. Donc, je vais inviter la personne à se concentrer sur la respiration. Quand on se concentre sur la respiration, il y a différents paramètres qui sont observables. Et quand on observe tous ces paramètres, la respiration devient vraiment absorbante. Et donc la personne est à l'intérieur d'elle, observer la respiration, c'est intéressant parce que la respiration est entre guillemets un objet, mais un objet qui est neutre. On ne peut pas avoir d'aversion ni de désir par rapport à sa respiration, mais c'est une invitation à l'intériorisation et à se recentrer, à se concentrer sur quelque chose. Donc il faut une concentration et une saturation au niveau des sens. Donc on va inviter la personne à se concentrer sur ce qu'elle voit, même si elle a les yeux fermés, sur ce qu'elle entend, sur ce qu'elle ressent, etc. Et puis, à l'issue de ça, il y a certaines techniques qui font que la personne décroche. L'esprit se met dans un certain état qui fait qu'on rentre dans cet état de type hypnotique. Mais vous savez, il y a quelque chose qui est très très perturbant, c'est que en vivant cette séance d'hypnose, on ne sait pas nécessairement qu'on est dans cet état d'hypnose. C'est le thérapeute qui voit de l'extérieur si la personne est dans cet état et a différentes indications. Mais par contre, à l'issue de la séance, les personnes disent souvent « Ah tiens, c'est bizarre, j'avais l'impression d'être complètement éveillée, d'être bien présent avec vous, mais là j'ai dû faire un effort pour revenir, pour bouger le corps qui me semblait complètement plombé, je ne savais pas ouvrir les yeux, et là j'ai dû vraiment sortir d'un état. » Donc on est dans un état, mais il faut en sortir, et c'est là qu'on sent qu'on était plongé dans cet état hypnotique.
Dans cet état hypnotique, justement, est-ce que le patient leur arrive à sortir des choses, à dire des choses qu'il ne serait pas autorisé à dire dans un état normal?
Oui, exactement. Donc ça s'appelle de l'hypnose conversationnelle. Donc il y a de l'hypnose où simplement la personne se met dans la réceptivité, il n'y a pas d'échange avec le thérapeute, mais quand on pratique l'hypnose conversationnelle, on sait arriver à amener la personne à se mettre en présence par rapport à, par exemple, avec un défunt ou une personne qu'elle ne voit plus, à qui il y a eu un conflit. Et là, la personne se met vraiment en présence d'eux et on la fait dialoguer avec. Et là, on peut vraiment sortir des choses et évacuer beaucoup de choses. Régler entre guillemets des comptes et s'apaiser.
Régler des comptes et s'apaiser, mais est-ce que la personne, quand elle sort de cet état hypnotique, va-t-elle se rappeler de ce qu'elle a dit, ou ça c'est quelque chose qui fait partie du secret professionnel du thérapeute?
Alors, il y a toujours des amnésies qui sont présentes dans les séances, et ou des appropriations et des transformations. Donc il y a des amnésies et donc la personne fatalement ne se souvient pas de ce qu'elle a oublié, donc elle ne se rend pas compte de ça. Mais par contre, quand je réévoque des mots ou des concepts qui ont été évoqués lors de la séance, la personne me dit « mais non, je ne sais pas, je ne me rappelle pas de ça ».
Vous êtes bien sur RCF et nous poursuivons notre découverte de l'hypnose avec Marie-Pierre Preud'homme qui est psychothérapeute et qui utilise donc ces techniques pour aider les personnes à mieux se retrouver. Alors juste avant la pause musicale, vous expliquiez qu'il y a une forme d'amnésie et que certaines personnes ne se rappellent pas de ce qu'elles ont pu dévoiler durant l'état hypnotique. Alors que se passe-t-il ? Quand vous leur dites « tiens, vous avez dit ça », est-ce que ça aide à avancer plus vite dans le chemin de la guérison intérieure ?
Ça aide. En fait, ce qui les parenthèses d'amnésie, en fait, ne se produisent pas par hasard. Elles ont une vocation de protection. Si il est plus bénéfique pour la personne de laisser ça de côté, ça va simplement être laissé de côté, donc il n'y a aucune raison de réactiver ça ou de vouloir le solliciter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de constater qu'il y a énormément d'appropriation des concepts. Et ça me fait souvent sourire. C'est-à-dire si j'induis à la personne la notion de bouger plus, par exemple, pour sa santé, pour son cœur. La personne s'approprie la notion de bouger plus et à l'issue de la séance, elle me dit « mais enfin, qu'est-ce que vous me racontez ? Vous n'imaginez pas, moi, mon vélo, ça fait 5 ans que je ne suis plus montée dessus. » Mais moi, je n'ai jamais parlé de vélo. Mais elle est persuadée que j'ai parlé de vélo, et donc elle s'est appropriée. Et ça, c'est toute la magie de l'hypnose, et tout l'art de l'hypnose, parce que je pense que c'est un art, c'est que la personne puisse s'approprier ce qui se fait en séance. Et que justement, le message qui est passé par le thérapeute doit être le plus neutre possible et faire en sorte que la personne puisse vraiment trouver son chemin elle-même et trouver ses propres solutions.
En suggérant comme ça, ça ne donne pas un peu l'impression d'une forme de manipulation ? C'est pas quelque chose qu'on peut reprocher ?
Manipuler, c'est prendre par la main, hein, étymologiquement, si je me rappelle bien. Enfin, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Quand une personne fait une démarche en thérapie ou en coaching, elle vient et sa demande, c'est « aidez-moi, j'aimerais accéder à tel état interne ou j'aimerais accéder à tel objectif. Pouvez-vous, entre très gros guillemets, me prendre par la main pour m'amener à cet endroit ?» Donc, ce n'est jamais que répondre à la demande de la personne.
Les personnes qui viennent justement dans ce et qui font ce genre de pratique, d'exercice pour pouvoir partir à la rencontre du meilleur d'eux-mêmes, est-ce qu'il y a, vous proposez une forme de dimension spirituelle dans l'hypnose ou bien c'est quelque chose tout à fait incongru?
Oui, j'y invite. C'est plus qu'adéquat. Je pose la question à la personne. Je demande, tiens, est-ce que vous êtes croyant ? C'est une question que je pose quasi systématiquement. Parce que si je peux renvoyer la personne à cette ressource, qui est une immense ressource, une faculté de lâcher prise, de se laisser porter par la foi, je le fais. Et dans la pratique de l'hypnose, où la personne est invitée à se lâcher prise, est invitée à une sensation de connexion, elle peut vraiment trouver la foi, ou retrouver la foi, ou retrouver vraiment une force dans la foi, dans se remettre à Dieu.
Comment est-ce que, par exemple, imaginez-vous que j'ai perdu la foi, ce qui est très embêtant en travaillant évidemment à RCF, et puis ayant eu cette émission, je viens vous voir, j'ai écouté, et Marie-Pierre, aidez-moi là, parce que j'ai un petit souci, comment ça fonctionne alors ? Comment est-ce que vous aidez les personnes à retrouver ?
Alors, c'est l'idée, plus que de retrouver, ça va être de laisser venir. Ça va être une idée vraiment d'ouverture, et de se dire, tiens, si j'ai envie ou besoin de me reconnecter à la foi, je vais simplement me mettre dans des dispositions pour pouvoir accueillir, pour pouvoir recevoir quand ça se présente. Et travailler sur l'acceptation. Je crois que la foi et l'acceptation, ce sont deux choses que j'utilise beaucoup en thérapie. Et il y a d'abord tout un chemin à faire qui est, là je n'ai plus la foi, ou je me sens déconnectée, Dieu, ça n'a plus de sens pour moi. Comment est-ce que je fais avec ça, ou comment est-ce que je fais sans ça ? Et je rentre dans l'acceptation. Et dans ce processus de rentrer dans l'acceptation, il y a un lâcher-prise qui se fait. Et là, on retrouve d'autres solutions et on se remet en chemin vers ce qui convient vraiment. Et peut-être la personne va se rendre compte, j'ai perdu la foi parce que la personne qui représentait ma religion, la personne qui pour moi était une référence, finalement ne peut plus l'être. Et voilà, je me suis déconnectée, mais finalement, je pourrais, fréquenter une autre église ou pratiquer seule ou me recueillir. Elle va retrouver un autre chemin.
Ça, c'est la personne qui retrouve un autre chemin, donc, parce que la foi l'habitait déjà. Est-ce que dans votre pratique professionnelle, vous avez des gens qui, par le biais de l'hypnose, quelque part, ont découvert la foi ?
Oui, ça se présente. Oui. Une foi qui ne se concrétise pas nécessairement par je vais spécifiquement aller à l'église, mais c'est la sensation, là vraiment je sens qu'il y a une force qui est à l'intérieur de moi et je sens aussi que je suis connectée à bien plus grand. Je m'en remets à ça. Après, les personnes font leur chemin et ça se matérialise de l'une ou l'autre façon. Mais effectivement, c'est vraiment quelque chose qui se présente dans cette invitation et ce vécu du lâcher-prise.
Vous insistez beaucoup sur ce vécu du lâcher-prise.
Oui.
Quelle est la dimension spirituelle pour vous de ce lâcher-prise ?
La dimension spirituelle, c'est justement de se dire, d'abord, il y a toujours cette notion d'acceptation. J'accepte ce qui est, ce n'est pas une résignation, mais je fais avec et je me laisse porter. Je lâche prise. Ce que je vis, C'est comme ça. Je me laisse porter. Moi, je lâche, mais je me laisse porter par plus grand que moi.
Nous en sommes déjà à la troisième et dernière partie de notre émission avec vous, Marie-Pierre Prudhomme, psychothérapeute et également, comment est-ce qu'on dit,
hypnothérapeute.
Hypnothérapeute, oui. Donc j'apprends un nouveau mot, tiens, j'ai bien fait de venir. Donc hypnothérapeute, et donc nous découvrons un petit peu l'hypnose. Dans cette première partie, on a vu un petit peu ce que c'était. Dans la deuxième, on a vu que ça pouvait être également un chemin spirituel qui a vraiment toute une dimension là-dedans. Est-ce que la majorité des gens qui viennent chez vous, dans votre cabinet, c'est des gens qui sont plus en quête de sens, en quête spirituelle
À la base, non. À la base, ils viennent avec un objectif précis qui n'est pas toujours le bon pour l'épanouissement. Et je les ouvre à autre chose. Quelque part, l'épreuve qu'ils ont, parce que généralement, ben, ils viennent parce qu'ils ont une épreuve ou parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils se disent, mais tiens, ça, je ne peux plus le supporter. C'est un point de départ. Donc, il y a un objectif, il y a une difficulté. Et c'est ça qui permet de se rendre compte, mais tiens, finalement, ça me permet de progresser. C'est un peu comme quelqu'un qui a un problème de poids. Et quand j'ai des personnes, parce que c'est une de mes spécialités, qui viennent pour les problèmes de poids, je leur dis, mais est-ce que vous pourriez dire merci d'avoir eu cette interpellation par rapport au poids? Parce que grâce à ça, vous êtes en train d'apprendre sur votre santé, et grâce à ça, vous allez sentir et vous allez faire des choses qui vont faire que votre corps va rester sain et en bonne santé. Donc ce n'est que quelque part un prétexte à évolution, une épreuve. Et ça, mais voilà, c'est dans ce sens-là que je travaille, aller plus loin que ce qui amène la personne.
En général, les gens qui viennent chez vous dans votre cabinet, est-ce qu'ils viennent chez vous parce que vous êtes psychothérapeute ou bien ils viennent chez vous parce qu'ils se disent « je vais directement aller à l'hypnothérapie »
Je suis surtout connue au niveau de l'hypnothérapie, mais aussi parce que j'ai une approche globale du corps et que je travaille aussi beaucoup en nutrithérapie et en réflexion de l'équilibre biochimique du corps, et ils savent qu'il y a une réflexion globale qui se fait. Mais avant tout, c'est l'hypnothérapie.
Donc une personne vient chez vous, on va reprendre un cas assez facile pour moi à imaginer, donc une personne en surcharge pondérale,
oui.
qui vient vous voir. Est-ce que cette personne-là, sentiment quoi qu'elle va, après, grâce à cette hypnothérapie, elle va commencer à perdre du poids, elle va commencer à prendre soin d'elle autrement, elle va aller dans une démarche plus spirituelle?
Alors là, c'est un bon exemple que vous prenez, Philippe, parce que l'idée de travailler sur soi au niveau du poids, c'est vraiment la grande illusion. Et les gens sont persuadés, tiens, avec 5 kilos de moins, je vais être heureux en famille, je vais me faire respecter au boulot, on va me regarder dans la rue. Et donc il y a une grande illusion qui est bien exploitée au niveau de la pub. En fait, le travail que je fais au niveau du poids, c'est de faire prendre conscience à la personne que ce n'est pas le vrai problème et que c'est simplement un symptôme dur à vivre, et il faut vraiment bosser dessus parce que c'est un tas d'impact. Mais avoir un problème de poids, c'est juste l'indication qu'il y a autre chose qui est en dessous. C'est comme d'avoir un bouton, ben, peut-être ça indique qu'il y a un problème au niveau du foie. Avoir un problème au niveau du comportement alimentaire, sous-jacent, il y a un problème relationnel, il y a un problème émotionnel, il y a des choses. Donc c'est sensibiliser à ça, inviter à travailler d'abord à la racine, lâcher prise encore une fois. Je m'accepte comme je suis et je dis merci, j'ai quand même la santé, j'ai quand même la famille, j'ai du travail, il y a plein de choses qui vont bien. Et si je restais avec ce corps-là, si j'acceptais ce corps-là, voilà, se détacher de l'obligation de modifier son corps, ça fait partie du chemin. Et voilà, c'est un petit peu remonter les échelles de valeur. Si la personne est intéressée, oh, je veux gagner X par mois, oui, mais tu vas faire quoi avec X par mois? Ah, ben je vais pouvoir partir en vacances. Pourquoi c'est important pour toi de partir en vacances? Et de fil en aiguille, on va remonter comme ça pour arriver, remonter à quelque chose qui est beaucoup plus haut et beaucoup plus inspirant pour la personne, qui est de l'ordre des valeurs et qui va, voilà, amener la personne vers autre chose. Ça n'a été qu'un prétexte.
Et donc, d'où cette importance, ce fameux lâcher-prise
oui.
que nous avons entendu tout au long de cette émission.
Il y a une petite séance qui est offerte d'ailleurs sur le lâcher prise, parce que pour moi c'est vraiment la base qui est...
C'est la base de l'hypnothérapie ou c'est la base de la vie ?
Je pense de la vie, mais la vie c'est... l'hypnose c'est la vie, hein, c'est le contact avec les ressources.
Merci à vous en tout cas, Marie-Pierre Prudhomme, de nous avoir fait découvrir, découvrir effectivement l'hypnose, hein, tout ce que ça signifie, comment on peut retourner vers le meilleur de soi-même, mais aussi de découvrir que c'est un chemin possible dans une dimension spirituelle. Et puis vous m'avez rassuré, moi je dis toujours que j'ai une taille de mannequin, mais je me suis trompé de siècle. Moi j'étais du siècle de Rubens, vous voyez. Donc, sans passer par l'hypnose, c'était mes conclusions. Merci en tout cas à vous d'être passé par notre studio. Et
merci.
Peut-être à très bientôt.
Merci,
au revoir.
Philippe.